Bonsoir, Jean-Pierre Bemba plaide pour une candidature unique de l'opposition. Le leader du MLC l'a déclaré hier à Bruxelles au cours d'une conférence de presse. Entre-temps, c'est ce mercredi que débute dans toute la République démocratique du Congo l'opération du dépôt des candidatures pour les élections présidentielles et législatives nationales. Quelle analyse faire de la problématique de la candidature unique au sein de l'opposition? C'est la question au débat ce soir et pour en parler, nous accueillons Daniel Monanteba, premier secrétaire national du Parti Socialiste, membre de l'opposition, mais également candidat déclaré à la prochaine présidentielle. Daniel Monanteba, bonsoir.
Bonsoir.
Fiou Ndoboni, bonsoir.
Bonsoir.
Président national du parti politique Ordre pour des actions nouvelles et garantes d'équité, Orange en sigle, et candidat lui aussi déclaré à la prochaine présidentielle. Et enfin, professeur Alphonse Maindo, docteur en sciences politiques de l'université de Sorbonne à Paris 1 et enseignant à l'université de Kisangani. Alphonse Maindo, bonsoir.
Bonsoir.
À tous, bienvenue dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Jean-Pierre Bemba confirme sa candidature à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. Le président du MLC l'a dit hier à Bruxelles au cours d'une conférence de presse. Le leader du MLC plaide par ailleurs pour la candidature unique de l'opposition à ce scrutin. Je milite, je le cite, pour qu'il y ait un seul candidat au niveau de l'opposition, affirme-t-il. On l'écoute au micro de Wendy Bashi.
Pourquoi d'abord je voudrais être candidat? Parce que je considère que ce pays a un défi, c'est-à-dire sortir un peu de cette contradiction. Vous avez un pays qui est très très riche et avec une population qui est extrêmement pauvre, et je pense que la population mérite une autre type de gouvernance dans ce pays. Ce qui se passe dans notre pays en termes d'insécurité, plus de 80 groupes armés qui sillonnent l'est du pays, les massacres au niveau du Kasaï, au niveau de l'Ituri, les enfants n'aillent pas à l'école, que les populations ne bénéficient pas de soins de santé adéquats, que l'économie est en berne et stagne, il n'y a pas de perspective d'investissement, donc je dirais d'emploi et de revenus pour les populations, me fait dire qu'il y a quelque chose à faire dans ce pays. Les 10 ans que j'ai passés au niveau de la CPI m'ont fait réfléchir et m'ont permis de garder le contact quotidien à travers mon parti politique et les acteurs politiques que je rencontrais à La Haye. Oui, je souhaite l'unité de l'opposition sur la candidature au niveau de l'élection présidentielle. Si nous voulons le changement dans ce pays, si nous voulons un nouveau régime dans ce pays, nous devons passer par une unité, un seul candidat au niveau de l'opposition. Et je milite pour qu'il y ait un seul candidat au niveau de l'opposition. Bien sûr, si ce n'était pas moi, moi je soutiendrais le candidat qui sera désigné par l'opposition. Ça, c'est clair.
Et comme annoncé, la Commission électorale nationale indépendante a ouvert ce mercredi les bureaux de réception et de traitement des candidatures aux élections présidentielles et législatives nationales. Cela devra durer 15 jours, c'est-à-dire jusqu'au 8 août prochain, tout comme la CENI doit en principe publier ce soir, mercredi, les listes définitives des candidats à la députation provinciale. D'après notre reporter qui reste encore sur place à la CENI, cette publication se fait attendre puisque les responsables de la commission électorale se trouvent en ce moment même en réunion. Et ce soir, c'est aussi l'histoire que des candidats présidents de la République dans une opposition qui pense tout de même à une candidature unique. Est-ce possible? C'est la question au débat ce soir et donc nous en parlons. Commençons par Daniel Monanteba, premier secrétaire national du Parti Socialiste, membre de l'opposition, mais également candidat déclaré à la prochaine présidentielle. Expliquez-nous d'abord d'entrée, vous êtes quand même premier secrétaire d'un parti et vous-même vous êtes candidat à la présidence de la République. Est-ce que c'est normal, c'est inquiétant, c'est contradictoire ou pas?
Non, pas du tout. Je suis premier secrétaire national. Pour la simple et bonne raison qu'au Parti Socialiste, dans l'organigramme socialiste, il n'existe pas de président. Le premier secrétaire national est l'autorité première du parti.
Donc, ce que les autres appellent autorité morale.
Non, pas morale, première.
Première.
Ce que les autres appellent président d'un côté, chez nous, ce sont les premiers secrétaires nationaux. Donc je suis le numéro 1 du parti. Et à ce titre-là, j'ai été plébiscité au mois de juin par mon parti pour être son candidat à la présidentielle. Rien de contradictoire, rien d'étonnant.
Alors, Daniel Monanteva, vous avez, il y a pas très longtemps, manifesté une certaine réticence à l'idée d'une candidature unique de l'opposition. Maintenez-vous toujours cette position ou a-t-elle changé?
Il ne s'agit pas de réticence, il s'agit juste de réalisme. Vous savez, il y a énormément d'hypocrisie. Beaucoup de ceux qui parlent de la candidature commune, de la candidature unique, prient pour que tout cela n'aboutisse pas. Mais là, nous sommes dans des postures, dans du populisme. Il ne faudrait pas que le peuple qui s'attend ou qui attend une candidature unique ait l'impression que moi X ou moi Y est refusé. Je vais faire semblant d'accepter, je vais faire semblant de militer dans ce sens-là, mais entre-temps, j'affûte mes armes. Au niveau de la candidature unique, je crois que tout le monde parle d'une candidature unique, comme s'il s'agissait d'une panacée. J'ai entendu mon collègue, le président Jean-Pierre Bemba, tout à l'heure, qui disait que c'est la condition sine qua non pour aboutir à une alternance. Je ne suis pas d'accord avec ces propos-là. Ça équivaudrait à dire que dès le moment où nous ne serions pas parvenus à une candidature unique de l'opposition, ça équivaudrait à dire qu'automatiquement la majorité gagnerait. Or, c'est tout à fait faux. La majorité a pour elle son bilan qui est amplement négatif. Un piètre bilan, et je crois qu'aujourd'hui, même pas 10% de notre population ne voudrait être de nouveau dirigé par ces gens qui ont œuvré à son appauvrissement et à son asservissement au niveau international. Donc, quand on parle de candidature unique, candidature commune, on oublie juste d'abord d'établir certains concepts. Sur base de quoi parle-t-on de candidature unique? Nous sommes des partis politiques qui ont chacun une idéologie, qui ont chacun un penchant vers un système de gestion ou un autre. Il y a les socialistes, l'UDPS, l'UNC, le Parti Socialiste que je représente, et ainsi de suite. Il y a les libéraux, le MLC et consorts. Sur base de quoi parle-t-on de candidature unique et de programme commun? Chez nous, au Parti Socialiste, nous disons que l'homme doit être au centre de tout projet de société qu'on devrait élaborer. Ce n'est pas le cas pour les libéraux, ce n'est pas le cas pour les progressistes. Je ne sais pas très bien, il faudrait qu'on s'asseye, certes, qu'on redéfinisse les concepts politiques de chacun des partis, et ensuite qu'on voit si ces concepts sont compatibles. Et croyez-moi, il y a des concepts qui sont totalement incompatibles. Ça équivaut à dire quoi? On fait la politique, comme certains disent, la réelle politique, qui consiste juste à se fier aux réalités du pays, ou bien on fait la politique réellement avec une idéologie, une ambition et une conviction? C'est la question qu'il faudrait poser.
Et dans le stade, le contexte dans lequel on est, quelle est l'option la mieux adaptée pour vous? La réelle politique ou la politique des idéologies et de la philosophie?
Il va de soi qu'actuellement, on ne peut pas parler juste de réel politique sans parler de l'idéologie et du reste. Sinon, il faudrait se départir alors de son idéologie, de ses motivations, de son projet de société et consort. Non, il faut qu'on trouve le juste milieu entre les deux. Réel politique, c'est vrai, mais qu'est-ce que la réel politique? C'est justement celle qui équivaut à se fier juste aux faits ou à l'évolution du pays. Mais nous faisons cette réelle politique. Dans quel but? Dans le but d'aller vers des élections. Des élections qui seraient censées voir l'avènement d'un candidat de l'opposition. Mais dès qu'il y a l'avènement de ce candidat de l'opposition, dès que nous aboutissons à cette fameuse alternance et que nous parvenons à mettre de côté et mettre dehors tous ceux qui ont, tous les fossoyeurs de la République, ça voudra dire qu'en ce moment-là, chacun devra reprendre son idéologie, son flambeau. Mais si on n'a pas eu le temps de préparer cela au départ, vous verrez quelqu'un qui aurait été plébiscité par tout le monde, arriver au pouvoir, qu'il sera en porte-à-faux dorénavant avec la vision des autres, et tout le monde dira, ah, on l'a soutenu, dès qu'il arrive au pouvoir, à changer face. C'est ça le vrai problème de l'RDC.
Mais est-ce que vous pensez que, en cas de consensus, justement, en cas de consultation préalable, l'option d'une candidature unique pourrait être la bonne pour l'opposition?
Absolument, à condition que les leaders de ce qu'on appelle l'opposition aujourd'hui, quoique là ça reste encore à redéfinir, à condition que les leaders de l'opposition se départissent de tout orgueil et qu'ils mettent de côté leurs égos. À une condition également, parce que je dis, vous voyez, j'ai mon ami Fillou à côté de moi, qui a pris une initiative plus que louable, plus que louable de contacter tous les leaders afin de militer pour une candidature commune. Oui, mais à ce moment-là, il faut que lorsqu'on parle de candidature commune et qu'on parle de l'opposition qui doit se réunir pour en parler, il ne faudrait pas que certains se croient sortis de la cuisse de Jupiter ou que certains disent leur ancienneté dans l'opposition, que certains disent leur force de frappe financière, que d'autres disent qu'eux sont plus intelligents que X et Y. Sinon, moi, je pourrais aussi dire que j'ai plus de femmes que X et Y. Ce n'est pas ça. Dès qu'on accepte de s'asseoir, il faut qu'en s'asseyant, que chacun se mette déjà en tête que ça pourrait ne pas être moi. Qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui que tous se liguent ou se massent derrière la candidature commune, en termes de candidature commune, derrière Daniel Monatéba? Je considère réunir aussi les critères, supérieurs même à certains autres. Mais je me dis, je suis ouvert à en parler, mais je ne m'effacerai pas devant qui que ce soit, si cela ne devait pas être sur base de critères objectifs. Si c'est juste parce que X vaut plus que moi, parce qu'il a plus étudié que moi, parce qu'il a, entre guillemets, une plus grande base que moi, je crois que chacun devra essayer de se réévaluer.
Merci Daniel Monatéba. Vous aurez une deuxième partie pour reprendre la parole. Fiyou Ndondo Boni, président national du parti politique Ordre pour des actions nouvelles et garante d'équité, Orange en sigle, vous aussi candidat déclaré à la prochaine présidentielle, vous semblez soutenir, vous, hein, contrairement à votre prédécesseur tout à l'heure, vous semblez soutenir une candidature unique. Pourquoi êtes-vous candidat déjà, vous-même, si vous soutenez tant cette option?
Oui, merci beaucoup pour la question. Je suis candidat moi-même parce que c'est bon, le parti à présenter, c'est l'expression de la démocratie d'abord. Et si nous sommes politiques, c'est tout simplement parce que nous sommes faits serviteurs d'un peuple. Nous avons une vision, nous avons un rêve pour ce peuple. Je pense que chaque acteur politique veut matérialiser une certaine vision pour l'intérêt de son peuple. On ne travaille pas pour nous-mêmes, on est au service de ce peuple. Sinon, chacun fait son business, son commerce et tout ça. Alors, le constat est celui-ci. Ce peuple veut quelque chose. Ce peuple veut voir une opposition qui lui présente un nom, pour que ce peuple se mobilise justement à choisir ses noms. Ce peuple a été blessé des années et des années. Dernièrement, il y a 2 ans, quand on a signé l'accord en 2016 et en 2017, ce peuple a été encore blessé avec l'éclatement du rassemblement et tout l'espoir qu'il avait bâti autour de cet accord s'est presque effondré. Alors, ce qui fait que ce peuple-là, nous devons cette fois-ci rentrer dans ses aspirations. Il veut cela. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous qui sommes acteurs politiques, nous devons maintenant être alignés à la vision de ce peuple. Voilà pourquoi il y a eu cette initiative. Si nous suivons les déclarations de tous les acteurs, les candidats déclarés, vous allez vous rendre compte, chacun ce qui le concerne, dit qu'il souhaiterait qu'il y ait une candidature commune. Si on met en place un critérium, il est prêt à céder pour l'autre. Tous les candidats déclarés le disent. Alors, nous sommes dit, il faut créer justement un cadre. Un cadre qui puisse permettre aux uns ou aux autres de présenter officiellement leur perception sur cette question. Et sur base de cela, nous identifierons les points qui nous mettent ensemble et le point qui nous diverge. Et nous allons développer ce qui nous met ensemble pour que nous puissions atterrir à cette présentation d'une candidature commune. Mais il est vrai, il y a 2 options dans cette démarche. La première option est qu'il y a de ceux qui disent « nous déposons tous nos cautions, nous payons nos cautions et il y aura un premier filtrage. Ceux qui en sortiront, ce sont ceux-là, nous choisirons une personne parmi 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui paieront leurs cautions. » Mais il y a une deuxième option qui se disent ouais, « écoutez, ce sont quand même des cautions assez importantes, pourquoi ne pas utiliser cet argent pour soutenir la candidature de la personne que nous allons désigner ?» Les 2 options tiennent, en fait. Mais il faudra que l'opposition, les différents candidats déclarés, se mettent ensemble pour lever une option qui deviendra leur stratégie d'action. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et les personnalités que nous avons rencontrées, jusque-là, sont favorables avec l'option. Et la population trouve louable cette action. Et nous pensons que si nous aimons réellement ce pays et nous visons l'intérêt de ces peuples, nous allons, chacun en ce qui le concerne, prendre suffisamment de la hauteur pour sortir de son moi et voir l'intérêt de son peuple. Donc voilà un peu ce qui nous motive dans cette action.
Alors, Fiyou Ndondo Boni, vous avez entendu tout à l'heure le message de Daniel Monatéba qui appelle à des concertations préalables entre opposants, à des concertations de précision avant de pouvoir dans le cas échéant, décider le candidat qui peut représenter l'opposition, alors que, vous venez de l'entendre, la CENI n'a que 2 semaines pour clore l'opération d'acceptation des candidatures des uns et des autres. Comment comptez-vous faire, vous de l'opposition, vous, vos collègues qui sont favorables pour une candidature unique pour arriver à cet objectif?
Bon, la préoccupation de mon collègue, candidat président Daniel, et c'est justifié parce que certainement il se base sur un passé, les comportements des uns et des autres. Mais nous sommes dans une situation telle qu'il y a une montagne qui est érigée en face de nous, qui donne une forme pour donner l'impression que c'est la montagne la plus forte. Et face à cette montagne, si nous ne faisons pas attention, nous émiettons nos voix, nous pouvons ouvrir une porte pour nous fragiliser et donner l'impression que cette montagne est plus forte que nous, rien que dans la présentation côté forme. Parce que côté forme, déjà, quelqu'un peut faire une analyse pour dire que le fond serait comme ça. Vous comprenez? Donc, il faudra que dans la présentation de la forme, nous soyons dans une situation telle qu'on ne puisse pas créer une fragilité de notre côté. Si nous travaillons efficacement, nous tenons compte des uns et des autres, la dimension du projet des sociétés autres, cela va se faire. Absolument, il faut qu'on le fasse.
Au stade actuel,
parce que le problème de la population est tel que n'importe quel projet de société d'une personne normale qui veut l'intérêt de ce peuple, il y aura 60-70%, ce sont les mêmes histoires.
Alors, vous avez entendu Jean-Pierre Bemba dire déjà à ce stade, hein, clairement, qu'il est ouvert à céder, à ne pas contrecarrer la candidature unique qui va se dégager, même si ce n'est pas la sienne. Est-ce que vous feriez la même chose?
Absolument. Étant donné qu'on a déjà pris l'initiative, dans nos déclarations, nous avons dit, nous portons déjà un modèle d'exemple. Parce que on ne peut pas prendre une telle initiative et rester. Ça sera une démarche plus ou moins biaisée dans le sens que vous voulez attirer tout le monde vers vous. Il faudra que nous-mêmes nous servions d'exemple à prendre de la hauteur et on montre cette disponibilité-là. Sinon, ça ne servira pas à cette démarche-là.
Et
nous saluons cette attitude. La même attitude, le président Fayoul me l'a dit, le président Kamere me l'a dit. C'est programmé que je vois également le premier secrétaire permanent Daniel. C'est prévu dans des consultations pour que, j'espère qu'on va échanger, il tiendra également le même discours parce qu'il faudra créer ce cadre justement pour que nous puissions avoir un compromis autour des
félicitations de votre initiative de rassembler, mais qui à ce stade pensez-vous qui est la meilleure personne pour
non,
faire gagner l'opposition?
Non, je ne peux pas dire la meilleure personne parce qu'il faut prendre, le plus fort a toujours besoin du plus petit, tout le monde est important, donc voilà pourquoi nous consultons tout le monde, c'est dans la discussion, dans les champs, dans les concertations que chacun en apportant son plus, nous allons lever une option commune. Donc tout le monde a toutes ses chances parce qu'il a cru et il croit à ce qu'il est en train de faire.
Merci Fiyou Ndondoboni. Professeur Alphonse Maindo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani, lequel des schémas peut faire gagner l'opposition selon vous? Une candidature unique ou des candidatures dispersées?
Bien, merci beaucoup. Je pense que c'est une excellente vraie fausse idée hein, de vouloir avoir une candidature unique de l'opposition pour les élections qui viennent. Alors, je le dis parce que on est face à une situation où on estime qu'il y a un péril en la demeure, un péril de la nation. Et donc, il faut trouver des solutions pour qu'il y ait un programme, qu'il y ait une alternance. Et c'est pour ça qu'on cherche les moyens pour ça. Mais le problème de fond, c'est quoi, finalement? Le problème de fond, ce n'est pas qu'on puisse avoir une candidature unique ou pas. Voyez-vous, le problème de fond, c'est qu'on doit avoir des élections qui soient véritablement libres, transparentes, équilibrées, justes, crédibles, équitables. C'est ça les élections dont on a besoin pour avoir des élections. Et si on a ça, et je vous garantis, quel que soit le candidat de la majorité ou du FCC, comme appelez ça comme vous voulez, et quel que soit le nombre de opposants, il y aura toujours un candidat de l'opposition qui viendra en tête. Donc si on a véritablement des élections libres, transparentes, qui sont organisées. Et donc à mon avis, la première stratégie sur laquelle l'opposition devrait se battre, c'est de se battre pour avoir des élections transparentes. Or, en l'état, il est impossible d'avoir ça avec la CENI telle qu'elle fonctionne. Et vous voyez tous les fichiers avec des doublons, voyez, la machine à voler et toutes les superfices qui sont développées pour comme ça. Et les mesures de frustration politique qui n'ont pas été prises par le gouvernement, etc. Donc, il faut qu'on n'aura pas des élections transparentes. Et donc, même si on a une candidature unique, mais la victoire de l'opposition n'est pas garantie. Voyez, avec les conditions qu'on a là pour qui sont mises en place par la CENI et le gouvernement, donc c'est garanti pour attirer une victoire étriquée ou arrachée ou, c'est pas moi, volée à l'opposition. Et donc, il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Je pense que l'opposition, si elle veut vraiment mener un vrai combat, son objectif numéro un, le défi numéro un qu'il doit affronter, si je dois me référer à Tony, si vous voulez, Tony B. Joseph, c'est d'abord élection transparente. Et les candidatures uniques pourraient être une espèce de solution de rechange. Au cas où cette bataille pour avoir une élection transparente est assurée, alors compte tenu de la situation dans laquelle on se retrouve, alors on regroupe les forces, alors pour trouver, pour essayer d'obtenir une alternance. Et donc, cette solution B, si vous voulez, pour moi, c'est une vraie fausse idée, hein, parce que la vraie idée, ce serait donc d'avoir des élections transparentes. Alors, pour avoir des élections transparentes, il nous faut véritablement changer les gens qui sont là en ce moment en train de préparer les élections. Et c'est pour ça qu'il me semble que l'idée qui a été avancée par certains de la société civile et d'autres même de l'opposition, j'ai suivi leurs avis, c'est d'avoir une transition citoyenne qui permettrait alors d'avoir des gens crédibles et dans lesquels légitimes qui conduiraient le pays vers les élections transparentes que je viens d'évoquer.
Alors, avec ou sans le président Kabila, y a-t-il, selon vous, une chance même infime pour l'opposition de gagner avec plusieurs candidats en course?
Alors, pour moi, si on organise les élections dans les conditions actuelles, avec ce qui se passe avec les fichiers, puisque vous avez presque 25% des électeurs qui se trouvent dans les fichiers aujourd'hui, qui sont des électeurs fictifs qui vont donner 25% de suffrage aux gens. Or, nous sommes dans une élection où c'est la majorité simple. Donc, si vous avez déjà 25% de suffrage pour vous, vous voyez ce que ça donne, vous avez déjà gagné. Voyez-vous, parce qu'il y aura peut-être une dizaine, une vingtaine de candidats. Donc, si vous avez déjà 25% avec 7 millions ou 16 millions, si vous voulez, vous avez gagné. Et donc, à mon avis, quel que soit le candidat de la majorité qui soit mis dans la place, que ce soit le président sortant ou un autre membre de la majorité, dans les conditions actuelles, si les élections sont organisées, il va gagner parce qu'on fait tout pour ça. Avec les mécanismes qui sont mis en place par la CENI, c'est tout ça qu'ils vont gagner. Et donc, il ne faut pas se tromper de combat, ils doivent mener un combat différent de celui qu'ils mènent en ce moment.
Professeur Maindo, vous savez que l'UDPS a son candidat, Moïse Katumbi est candidat déclaré, Jean-Pierre Bemba, vous venez de l'entendre, Fiou Ndondoboni, Daniel Monanteba et beaucoup d'autres dont je n'ai pas cité les noms. À ce stade, visiblement, on n'est pas si proche que ça de la candidature unique et toutes les candidatures doivent donc malheureusement être closes dans une dizaine de jours seulement. Que doit faire l'opposition selon vous pour réaliser son rêve de candidature unique?
Alors, si l'opposition veut réaliser son rêve de candidature unique, il faut que l'opposition puisse se dire d'abord que, voilà, nous sommes face à un péril de la nation. Quand il y a péril de la nation, il faut développer une mystique forte de la nation qui impose donc rassemblement, qui impose loyauté, etc. Et donc, on se met ça. Alors, on se dit, il faut qu'on se mette ensemble pour négocier, et vite, le plus vite c'est mieux. Pour négocier, on négocie sur quoi? Alors, on va négocier pour trouver, on sait plus qu'un objectif de la négociation, c'est de trouver un résultat qui satisfait tout le monde. Et pour ça, c'est quoi? C'est qu'il faut que l'élection puisse être gagnée par l'opposition. Ce serait donc l'objectif. Alors, dans ce cas, quel est le style de négociation qu'on devrait mettre en œuvre? Il ne faudra pas ici qu'on mette ce qu'on appelle le style compétitif, le modèle compétitif de l'élection, disons de négociation, parce qu'avec ça, les gens donc vont se fonder sur les positions. Chacun va vouloir défendre sa position et on risque
Merci.
De ne pas avoir
Merci.
De compromis rapidement.
Merci.
Alors, il faudrait donc alors qu'il se base sur le modèle dit coopératif, qui est fondé sur les intérêts. Qu'est-ce que moi je vais gagner? Ça, je veux que ce sera gagnant-gagnant pour tous les membres de l'opposition.
Professeur Mahindo, je vous remercie pour cette première analyse. Une réflexion que je souhaiterais soumettre à la lecture de Daniel Mwananteba. Cette réflexion nous vient de Kananga.
Kabea Bétou Célestin, je suis à Kananga dans la province du Kasaï central. La démarche de Jean-Pierre Bemba est à soutenir à mon avis, car dans une présidentielle à un tour, la multiplication des candidats de l'opposition jouerait à l'avantage du candidat du pouvoir, comme ça a été le cas en 2011 dans notre pays. Mais je souhaite que l'opposition adopte une certaine stratégie fantastique pour éviter que le pouvoir n'invalide cet unique candidat qui sera choisi. Sur ce, tout opposant doit d'abord déposer, ensuite attendre la validation des candidatures en septembre et décider qui a le plus de chances de représenter valablement les forces politiques de l'alternance. Puisqu'à l'allure où vont les choses, il est probable que certains candidats favoris ne puissent connaître les tracas, tel le cas de Moïse Katumbi qui voit sa candidature être menacée de rejet après révélation d'une supposée nationalité italienne et autres procédures judiciaires qui l'ont conduit à vivre en exil. Avec toutes ces craintes, si l'opposition dépose plusieurs candidatures, ça serait une façon de prévenir contre tout plan de la majorité présidentielle.
Alors, Daniel Mwananteba, notre auditeur de Kananga, insiste sur la nécessité d'une candidature unique.
Oui, je l'ai suivi. Il insiste surtout sur la nécessité pour tous les candidats de déposer d'abord, de postuler, de déposer leur candidature et ensuite de se mettre autour d'une table pour élaguer les autres candidatures et n'en garder qu'une. Mais
c'est plus ou moins ce que vous disiez.
Voilà, j'en reste à ce que je disais avant. J'en reste à ce que je disais avant. Mais je ne sais pas si je pouvais rebondir sur quelque chose qu'a dit le professeur.
Mahindo,
Alphonse. Je suis très heureux. Très, très, très heureux, et je voulais qu'il le sache, de cette réflexion qu'il nous a été donné de faire. Avant qu'on en arrive à parler dépôt de candidature, je rappellerai que je suis le seul parti, et de l'opposition et de la majorité, qui s'était refusé à procéder au dépôt de candidature pour les élections provinciales, en lançant comme message au reste de l'opposition que si nous étions déjà unis et que nous avons une décision unique, qui consistait à refuser de participer à ces élections en cas de non-retrait de la machine à voter et de l'élagage du fichier électoral qui contient, comme l'a dit le professeur Mahindo, pratiquement 25%, mais c'est plus proche de 20% parce que c'est 16,4 qui équivalent pratiquement à 16-17% de voix. Nous n'avons pas été écoutés, nous n'avons pas été suivis. Nous avons pris le risque de ne pas bénéficier de députés provinciaux en République démocratique du Congo aux prochaines élections, convaincus que nous étions que notre vision pour le Congo était plus importante que cette bataille pour des postes dont le sort serait peut-être scellé à l'avance. Nous avons été condamnés, même au sein du parti, il y a eu des voix discordantes. Eh bien, on avait coupé la part en deux en disant « ça va ». Comme nous n'avons pas déposé les candidatures au provincial, eh bien, on va satisfaire l'autre frange du parti qui veut à tout prix aller. Eh bien, pour les nationales et la présidentielle, nous allons déposer. Mais j'en reviens à une problématique très importante. L'unité de l'opposition ne doit pas seulement se faire autour de la candidature unique ou du candidat à désigner, parce que tout le monde devient comme un petit agneau, un petit mouton, tout le monde est le meilleur, tout le monde veut y être. L'unité de l'opposition doit déjà se sentir dans des prises de position communes qui iraient dans le sens d'empêcher la majorité présidentielle devrait dans le sens de la tricherie pour les prochaines élections. Comme l'a dit le professeur Mahindo, je suis très heureux parce que c'est un discours que je tiens tous les jours. Pour finir, je commence à m'inquiéter parce que j'ai l'impression de passer pour un fou, d'être incompris. Eh bien, il faut qu'on ait un discours commun, un discours unique autour du rejet de la tricherie. Seul gage d'aboutir au résultat auquel nous aspirons. Si nous ne faisons pas garde, nous irons aux élections avec cette machine à voter, avec même un candidat unique qui aura peut-être 41%. Et vous verrez le candidat de la majorité avoir 43% ou 44%, ce qui ferait 95% avec 5% pour des indécis ou je ne sais quoi. Mais ça aura servi à quoi? Juste à légitimer cette élection et à permettre à la majorité de mettre en place sa stratégie. Il y a énormément à dire.
Daniel Mwananteba, vous avez aussi entendu le professeur Alphonse Mahindo proposer l'idée pour l'opposition d'amener plutôt vers un temps de préparation correct pour les élections, la transition, pour pouvoir élaguer beaucoup de choses qu'il a énumérées ici, qui sont des choses, selon lui, qui ne marchent pas.
Mais vous savez, quand on parle de transition, ça devient même un mot tabou. tout le monde se dit, ah voilà, ils sont encore là pour des postes. Mais le vrai problème, au-delà des termes, il faut qu'on puisse comprendre. Le vrai problème est celui de savoir que veut le peuple. Le peuple veut de tout, sauf de Joseph Kabila et de sa bande.
Vous serez d'accord s'il fallait aller à l'idée d'une transition pour préparer correctement les élections?
Je pense que c'est la seule voie possible pour préparer réellement de bonnes élections. C'est la seule voie possible. Il faut une transition. Mais il faudrait une transition dans ce cas-là sans Joseph Kabila. C'est hors de question d'aller encore dans une transition avec lui. Ce serait vraiment une insulte pour nos peuples et ce serait même une insulte pour nos propres intelligences.
Fiyou Ndondoboni, pour vous, ce commentaire qui vient de Goma.
À mon avis, Jean-Pierre Bemba, qui vient fraîchement de la cellule pénitentiaire, semble avoir perdu de vue la situation sociopolitique de son pays, surtout la révolution du temps. J'imagine qu'il se place dans le contexte de 2006, au second tour des élections, quand il devait faire la compétition contre le candidat Joseph Kabila. Pourtant, les temps ne sont pas les mêmes. Et les contextes ont aussi changé. Aussi bonne que peut paraître cette idée, ce n'est pas la première fois que cela est proposé. Mais malheureusement, elle n'avait pas reçu d'audience dans les chefs de ses pairs de l'opposition, qui sont des gourous qui ne veulent pas se faire des concessions. On se rappellera que Kamere et Katumbi et autres l'avaient proposé à leur temps. Par ailleurs, en ce moment où le dépôt des candidatures de BIS, cette proposition risque de ne pas rencontrer les attentes d'autres acteurs politiques du fait que le temps n'est pas suffisant pour lever l'option. Et à part ça, il faut aussi qu'on poursuive les mêmes objectifs pour faire confiance.
Alors, Fiyou Ndondoboni,
Merci pour la question et je salue mon frère qui a posé cette question. S'agissant du président Jean-Pierre Bemba, il dit qu'il a perdu la réalité politique et tout ça. Je pense que dans sa déclaration, il a dit les 10 ans passés en prison l'ont mûri et il a acquis beaucoup d'expérience, il a beaucoup appris et je pense que c'est déjà un atout. Le président Jean-Pierre Bemba, c'est un acteur important pour le pays et dans les contextes qui est nôtre, nous pensons qu'il a un rôle important à jouer et on a besoin de l'apport de chaque Congolais. Et voilà pourquoi, j'imagine, dans sa déclaration, il a laissé une porte, sa disponibilité et il est apte à céder à la personne qui serait trouvée par tout le monde comme meilleure. Et il sera prêt à le faire, c'est censé dire. Et par rapport au contexte qui est nôtre, justement, c'est un contexte tout à fait particulier qui nous demande, vraiment, j'insiste là-dessus, à chacun de nous à prendre vraiment de la hauteur et voir l'intérêt de la population. Et si nous voyons ce que le professeur Maïndo a dit tout à l'heure, il a posé le problème, mais je le résume en 2 niveaux, les problèmes internes et les problèmes externes. Tout ce qui concerne le processus électoral, c'est un problème qui n'est pas géré par l'opposition, c'est-à-dire la CENI et le gouvernement qui est censé mettre le moyen, qui organise ces élections pour tout le monde, c'est-à-dire la CENI organise pour tout le monde. C'est un problème externe à l'opposition, mais il y a un problème interne. L'opposition doit également s'organiser pour qu'elle soit forte et gagner les élections. Donc, ce qui fait qu'il faut gérer les 2 problèmes au même moment. Voilà pourquoi, en interne, nous devons nous organiser pour avoir une candidature commune. Nous devons nous organiser pour avoir le point de vue commun. C'est ce que Daniel a dit tout à l'heure. Même dans nos positions, on doit s'organiser pour être une seule personne. Ça, c'est en interne. Mais en externe, maintenant, il y a la question de la machine à voter, il y a la question du processus proprement, du processus électoral proprement dit. Et ça, ce sont des problèmes. Une fois on est ensemble, nous pouvons facilement affronter tous ces problèmes-là. Voilà pourquoi nous avons levé l'option de créer justement ces cadres. Ces cadres vont nous permettre de créer cette harmonisation de vue et que nous vassions ensemble. La diversité n'est pas nécessairement une division. Chacun est libre de s'exprimer et de donner ce point de vue. Mais quand il s'agit de 2 intérêts que nous tous nous allons identifier à sauvegarder et nous allions, nous avançons. C'est ce qui est plus important. Et si nous le faisons, je crois que la population va se dire elle a en face d'elle une opposition qui a mûri et qui vise prioritairement ses intérêts.
Fiyou Ndondoboni, vous savez que le temps joue contre vous. Il n'y a plus que 10 jours pour faire toute cette gesticulation et donner des résultats. Est-ce que vous pensez que le timing permettra un résultat de candidature unique?
C'est toujours possible. C'est toujours possible. Voilà pourquoi nous avions dit, on avait organisé une rencontre à la fin de cette semaine. Nous avons reporté tout simplement pour attendre d'autres éléments. Le président Jean-Pierre revient le premier. Tout ça, il faut intégrer tout le monde pour avoir l'inclusivité. Mais il y a également cette question, je crois que c'est la première personne qui a posé au deuxième, sur les dépôts des candidatures. Il a dit qu'il faudra que tout le monde dépose et que nous allons monter la stratégie après, tout ça. Mais du moins dans notre démarche, nous voulons que cette option soit inscrite dans notre stratégie. C'est-à-dire, soit on dépose, tout le monde nous déposons, mais nous savons où nous allons, ou nous ne déposons pas une seule dépose, évidemment avec tout le risque possible. Donc, mais cela soit intégré dans une stratégie de travail que nous nous sommes adonnés pour notre victoire finale.
Est-ce que pour vous, vous êtes plus ou moins ouvert à d'autres stratégies, y compris la stratégie de la transition, ou bien pour vous, c'est totalement inacceptable de penser à une autre période de transition?
Vous savez, au stade actuel, l'unique clé que nous avons, ce sont les élections. C'est validé par les Nations Unies, sont ici, la MONUSCO et tous les partenaires internationaux sont dans la logique deux élections.
Pour 2018.
Nous ne sommes pas un État isolé. Nous devons assumer nos responsabilités, nous devons porter cette charge d'État. Voilà pourquoi nous devons nous mobiliser pour les élections d'abord et mener des actions, des stratégies qui pourra réduire au maximum possible le plan de tricherie de l'autre camp. C'est de la politique. Donc c'est sur ça que nous devons réfléchir. Parce que si nous devons mettre en place des concepts que nous ne savons pas définir dans les temps, ça sera difficile. Or, le processus électoral, on peut le définir dans les temps. On sait qu'en 23, nous devons aller aux élections. Il y a un calendrier, mais nous sommes en face d'un problème. La machine à voter et le plan de tricherie qui est planifié. Il nous revient maintenant, en tant qu'acteur politique de l'opposition, de mettre en place également des stratégies qui nous amèneraient à contrecarrer les autres plans.
Merci.
Donc ça serait notre niveau de maturité également.
Merci, professeur Maindo. Pour vous, cet auditeur de Mahagi.
Olivier Tunia Ayolangi, à partir de Mahagi, dans la province de l'Ituri. Une candidature commune ou unique de l'opposition est une problématique complexe au regard des origines et ambitions politiques de chacun des partis politiques de l'opposition. Ceci dit, faut-il une candidature unique ou commune de l'opposition au scrutin présidentiel du 23 décembre prochain à l'RDC? Si oui, à quel moment les différents candidats affichés jusque-là doivent-ils se mettre d'accord autour d'un plénipotentiaire de l'opposition? Quel est le candidat qui accepterait de débourser 5 milliards de dollars au titre de paiement de la caution exigée pour ensuite s'effacer au profit de notre candidat? De ce fait, nous pensons que l'argent qu'on aurait gaspillé pour une garantie non remboursable qui n'aura bien servi à rien pourrait bien soutenir la campagne électorale des candidats communs choisis avec consensus. Au regard de tout ça, nous pensons que l'opposition devait organiser le primaire.
Professeur Alphonse Maindo.
Oui, merci beaucoup. Je pense que l'idée d'organiser des primaires ne serait pas une mauvaise idée pour avoir les candidats de l'opposition. Mais comment organiser les primaires? Ça demande un délai, des temps, ça demande une campagne, tout ça, etc. Or, on sait aussi que si on fait des primaires, eh bien, les gens vont se tirer dessus à boulet rouge et ils vont se détruire mutuellement. Et ils vont donner des armes à l'autre camp, c'est-à-dire au FCC, donc aux forces front pour communs pour le Congo. Et donc ils vont se détruire, ils vont fragiliser encore l'opposition. Ah, donc il faut trouver un format. Pourquoi ne pas recourir, par exemple, à ce que un collègue professeur aux États-Unis a proposé, il a fait une élection qui a permis d'avoir les personnalités qui pourraient assurer, si vous voulez, l'administration du Congo. Et on a vu qu'il y avait deux noms de citoyens qui émergeaient, hein, parmi lesquels le cardinal Laurent Monsengo et le professeur Denis Mukwege, médecin de son état. Alors, je veux bien, mais il faudrait alors qu'on arrive aussi à une espèce de rassemblement, un peu comme ce que Macron a fait en France, hein, qui a rassemblé la gauche, la droite autour du centre. Et donc ça, ce n'est pas aussi facile à faire, puisque ça supposerait alors qu'on puisse arriver à une espèce de fin des idéologies, comme Francis Fukuyama l'a rappelé dans son livre La fin de l'histoire et le dernier homme. Mais moi, je voudrais revenir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure. Alors, je pense que il ne faut pas, on ne fait pas des élections pour des élections. Ce que veut notre peuple, ce n'est pas des élections pour des élections. Notre peuple veut des élections qui puissent apporter des solutions à son problème, lui donner des autorités légitimes, lui donner une nouvelle gouvernance qui permette d'aller de l'avant, d'améliorer les conditions de vie, de donner du travail, etc., etc. Donc, c'est un gouvernement qui puisse avoir de la compassion pour le peuple congolais qui est en détresse, qui est en souffrance. Et donc, si on fait des élections pour des élections, ça sera encore plus dangereux que de ne pas avoir d'élections du tout. Parce que ça va, les gens vont contester dans tous les sens. Ça sera un désastre. Ça sera un chaos. On risque d'aller vers une guerre civile parce que les gens vont contester des partis, des résultats qui seront publiés. Parce qu'on fait partie dans des élections qui, à mon avis, ne garantissent pas la transparence et l'équité de...
Professeur Alphonse Mahindo? Allô, professeur Alphonse Mahindo. Oui, professeur Alphonse Mahindo, vous êtes avec nous ou on vous a perdu un moment?
Oui, là je reviens, oui, voilà. Donc je disais que si l'on veut véritablement aller de l'avant, il faut organiser des élections qui soient transparentes. Il vaut mieux prendre du temps pour avoir des élections qui répondent aux problèmes que de faire des mauvaises élections qui vont créer plus de problèmes, notamment des contestations violentes, y compris nous emmener vers une guerre civile. Donc, il faut faire des élections qui ramènent la légitimité, qui ramènent une nouvelle gouvernance et dont les résultats soient acceptés par tous. Donc, il ne faut pas se précipiter. Et je réinsiste là-dessus, on ne fait pas des élections pour des élections. On fait des élections pour avoir des autorités légitimes.
Alphonse Mahindo, et c'est déjà la fin de cette émission, votre conclusion. Tout à l'heure, j'ai posé la question à un des candidats présidents qui a souhaité encore réserver sa réponse. Mais vous, en tant qu'analyste, dans cette pléiade de candidatures, qui voyez-vous qui est déjà la personne qui pourrait être la mieux indiquée pour faire gagner l'opposition?
Alors, ça, c'est vraiment difficile. Quand on regarde la carte politique de ce qu'on a là aujourd'hui, on voit qu'on est éparpillé. Il y a des gens qui ont une popularité à l'est, d'autres qui ont une popularité à l'ouest, d'autres qui ont une popularité au centre, d'autres qui ont une popularité au sud, etc. Donc, c'est vraiment dispersé. Donc, il faut vraiment être vraiment un grand devin pour pouvoir dire qui c'est le mieux placé pour faire ça. Alors, moi, si je devrais m'en tenir, voyez-vous, à ce que l'on a aujourd'hui, là, pour éviter des choses, il faut alors demander, faire une sorte de sondage aujourd'hui. Et ce dont on dispose aujourd'hui, en l'état, il y a un travail qui a été fait par un collègue congolais qui est propre aux États-Unis, hein, et qui a montré une espèce de hiérarchie de personnalités qui pourraient bien faire la gestion de ces pays pour nous amener de l'avant. Et vous avez vu qu'en fait, ils n'étaient pas les hommes politiques. En fait, ils sont venus de présenter la société civile, le cardinal Motsengo et le professeur Denis Mukwege. Donc on voit bien là que dans la hiérarchie, si on doit avoir des gens qui doivent permettre de gagner l'élection, ce serait alors quelqu'un qui gagne la société civile.
Merci professeur Alphonse Mahindo de cette agréable contribution. Les prochaines fois, vous êtes la bienvenue. Nous concluons aussi avec Fiyun Dondoboni en 20 secondes. Vos collègues vous désignaient le candidat unique qu'il faut représenter à la présidentielle, vous promettez quoi à la population en 10 secondes?
Dans 10 secondes, on ne peut pas faire une promesse démagogique. Ce que j'aimerais dire, c'est que le Congo est grand et la grandeur du Congo exige à chaque acteur politique de la hauteur et de la grandeur. Si nous atteignons cette dimension, nous allons avoir des attitudes pour l'intérêt du Congo et nous ferons tout pour le Congo. Voyons Congo, visons Congo, travaillons pour le Congo et nous ferons le meilleur pour le Congo.
Fiyun Dondoboni, je vous remercie. La même question à Daniel Mwananteba. Si vos collègues vous désignaient le seul candidat, le candidat unique pour la présidentielle côté opposition, vous direz quoi à la population qui vous écoute?
Ben déjà, je dirais à la population que tout ce que nous aurons en tête, c'est de remettre en état la justice. C'est le socle sur lequel nous voulons que la RDC puisse s'asseoir. La justice et rien d'autre. Même le trône de Dieu est assis sur la justice. Et à ce niveau-là, croyez-moi, avec la justice, nous atteindrons tous nos objectifs.
Merci.
La justice.
Merci Daniel Mwananteba. Daniel Alain Ngoy et à la technique et nous a aidé pour cette émission. Guy Maté et Alain Irung à la réalisation, la supervision. Pélé Kipela Mondo, Dona Madimba, c'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.